Code de philosophie de la nature, de Marie-Dominique Philippe, le 12 novembre 1999, à Saint-Gérard.
On m'a demandé de reprendre l'induction pour la Fousis. Je comprends, hein, parce que elle est très difficile, parce qu'elle est très obscure. L'induction pour la forme dans l'activité artistique est lumineuse. Je vois le devenir de l'artiste, de l'activité artistique, parce que c'est le devenir de l'activité artistique, le sculpteur, parce que c'est chez lui où le travail est le plus net. Il sculpte, d'ailleurs de pierre. Le travail artistique est déterminé par l'œuvre que fait l'artiste. Qu'il s'agit de poète, qu'il s'agit du sculpteur, qu'il s'agit du peintre, qu'il s'agit de l'artisan, son devenir est déterminé par une forme qui va se trouver dans la matière, dans l'œuvre réalisée. Et vous vous posez la question, la signification, le sens de ce devenir artistique. Quel est-il ? Et vous posez l'idéa, non pas dans la matière, mais dans la tête de l'artiste, dans le cœur de l'artiste, dans son intelligence. Et ça très vite, un gosse qui s'amuse au bord de la mer, avec le sable, à construire un petit château, à construire une petite maison, à construire quelque chose. Comment fait-il ça ? Qu'est-ce que c'est que tu fais ? Voilà, on pose la question. Qu'est-ce que c'est que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu donnes à ce sable une signification. Et il donne à ce sable une signification et vous le laissez, vous écoutez. Vous avez tous fait ça dans votre vie. Et il explique. Tu vois, là c'est la maison. Tu vois, ça c'est l'église. Tu vois, ça c'est le garage. Tu vois, ça c'est ça. Et son travail a été comment ça déterminé ? D'où vient ça ? D'où vient cette détermination ? Quand vous voyez quelqu'un qui est auprès d'une forge et qui est en train de faire un fer à cheval. D'où vient son travail qui a besoin de la chaleur, qui fait qu'il prend des outils pour l'éloigner de cette chaleur, parce qu'il faut battre le fer quand il est chaud, et il le sait, impossible de battre le fer quand il est froid. L'élément de la chaleur est nécessaire. Condition sine qua non. Je ne peux pas travailler s'il n'y a pas cette chaleur. Condition sine qua non. Mais la condition sine qua non ne dit pas la causalité. Elle est une causalité à l'intérieur de la matière, mais elle n'explique pas du tout l'orientation. Ce travail est commandé par une idée, cause déterminante. Vous voyez ? C'est l'intérêt du devenir artistique, c'est que le devenir artistique, c'est que j'interroge en disant d'où vient cette détermination ? Elle vient d'une idée qui n'est pas dans la matière. Elle vient d'une idée de l'artiste inspiré. Quand vous mettez quelqu'un à côté du forgeron qui n'est pas inspiré, il fera rien du tout. Il regardera, il fera rien du tout. Et le forgeron lui dira, mais travaille ! Non, il ne peut pas travailler, il n'a pas d'idée. Il dira simplement, ah, je peux te copier, travaille devant moi, puis j'essaierai de faire la même chose à côté. Et c'est ce qu'il fait, il copie. Et le vrai travail artistique, ce n'est pas la copie. La copie, c'est en second. Le devenir artistique est commandé par l'idéa, qui lui donne sa signification profonde. Le travail du peintre. Et on comprend très bien qu'un artiste n'aime pas de travailler devant un profane. Les artistes sont plus ou moins farouches là-dessus. Mais il faut être seul pour être inspiré. Il suffit d'une présence neutre pour que l'inspiration soit coupée. C'est très important de se rappeler ça. Le travail artistique demande d'être seul. C'est un sanctuaire. Rouault était comme ça. Rouault interdisait absolument tout le monde d'être dans son lieu où travailler. C'était pour lui son sanctuaire. Autrement, ce n'était pas du tout par une espèce de vanité ou de choses. Non. Autrement, l'inspiration ne pouvait plus être pure. L'inspiration qui lui donnait, la détermination qui lui permettait de déterminer et de travailler en artiste. S'il travaille en artiste, il faut qu'être seul, seul. L'inspiration réclame ce silence. Et à ce moment-là, on a un travail déterminé par l'inspiration. Donc je découvre la cause formelle du devenir artistique en posant la question d'où vient cette détermination. Quand je suis en face d'un devenir naturel, pas du vivant, mais un désir, un devenir naturel, il y a un désir naturel. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme désir, comme devenir naturel? Une source. C'est un devenir. L'eau coule. Pas de pareil, tout coule. C'est un devenir naturel. Oui, les scouts font ça. Ils sont attentifs à ça. Parce que la ville, dans la ville, on ne voit plus ça. Un gosse élevé dans la ville ne voit jamais un désir naturel. Il voit qu'une chose artificielle. Tout est artificiel. Ça, c'est que Nietzsche a très bien senti. Quand je suis dans la ville, je dis l'art. Quand je suis au désert, et que je vois le désert. Quand je suis en face de l'océan, en face de la côte sauvage bretonne, bien de la côte moins sauvage, mais plus monotone, de la mer du Nord, et que je regarde ça, le sable qui bouge. La mer se retire, elle laisse les crabes. Les états de saleté. Ici, c'est un devenir naturel. Quand je regarde les nuages, c'est un devenir naturel. C'est vrai. Quand je regarde un petit ruisseau, à certains moments, l'eau augmente, s'intensifie. Et je suis devant un petit torrent qui coule très fort. Et c'est toujours le panne d'arrêt, tout coule, naturellement. Et pour que ça coule plus, je dois faire dévier ce cours d'eau. Je peux le dévier, mais ça, c'est plus naturel. Et c'est toujours beaucoup moins beau. Tandis que cours d'eau naturel, c'est beau. C'est étonnant. On peut regarder ça indéfiniment. Qu'est-ce que c'est que ce devenir? Qu'est-ce qu'il est? Pas celui du vivant, naturel. Celui qui relève de l'eau qui coule. Celui qui relève du feu qui brûle. Voir une forêt brûlant. C'est beau. C'est désolant, mais c'est beau. Tant qu'on attend les pompiers, on peut admirer. Et on admire. Il y en a qui pleurent parce que c'est tout leur bois qui disparaît. Mais si je suis libre de l'argent, j'admire. Et si je suis lié à l'argent, je n'admire plus. Je pleure. C'est désolant. Vite, vite, qu'ils viennent. Je suis impatient, je ne regarde rien. Et j'attends les pompiers qui arrivent. S'ils peuvent arriver à cesser le feu. Oui. Et puis, la terre. La terre, c'est curieux. Hein. Je vois des devenirs divers. Ils sont différents. Le cours d'eau qui coule, qui devient un torrent. Il y avait comme ça l'eau vieille. J'ai le bon père de Monténard, un titan qui variait tout le temps quand on passait. Et après, la pluie, il était quelquefois merveilleux. On aimait de le suivre, de remonter, pour trouver la source. D'où ça vient, la source. Un incendie, il valait mieux pas en créer. Hein. Il valait mieux pas, on respecte le bien d'autrui. Et quand il existe et qu'il ne dépend pas de nous, on le regarde. C'est étonnant. Un grand feu, alors il y a des feux artificiels, le feu de bois, le grand feu liturgique, le feu nouveau. Et il est artificiel, pas naturel. Il a été fait de main d'homme. Tandis que quand il s'agit d'un feu qui brûle une forêt, c'est... Ça, fallu d'une allumette, donc il était quand même artificiel. Hein. Fallu d'une allumette. Et quelquefois, il ne faut même pas l'allumette. Ça brûle tout seul. Alors, je me pose la question, qu'est-ce que c'est que ce devenir? Qu'est-ce que ça représente, ça, au point de vue de son être? Et qu'est-ce que c'est? Je m'aperçois de la diversité de ces devenirs. C'est important. La diversité du devenir de l'eau, la diversité du devenir sur les vallons. Quelquefois, c'est très beau de voir ça. La diversité du feu, la diversité des nuages. Il y a toute cette diversité. Des quatre éléments, la diversité des quatre éléments. Que représente ce devenir? Parce que c'est toujours le devenir. Le pantarel, tout coule. Qu'est-ce que c'est? Je me pose une question. C'est toujours très important de poser l'interrogation. Je ne dis pas d'où il vient, mais ce qu'il est. Ça, c'est très important. Quand je me pose la question d'où il vient, ah, je réponds par sa source, par l'allumette qui a été créée, qui a fait l'incendie. C'est l'allumette. L'allumette, elle n'est pas naturelle. Ça ne pousse pas, les allumettes. C'est comme les macaronis, ça ne pousse pas. C'est pas naturel, c'est artificiel. Et ça a été un oubli. On a acheté sa cigarette qui brûlait encore. Ça a brûlé le foin. Puis après, progressivement, ça a brûlé. Qu'est-ce que c'est que le devenir naturel? qui n'est pas artificielle. Vous voyez, et on aime de dire que de devenir l'homme n'y a pas touché. Et pour ça, il faut voyager seul dans la montagne. Il faut voyager seul dans la plaine pour entendre le vent, pour regarder les nuages. Et on est bien d'être seul. Et on a besoin d'être seul pour connaître ce devenir naturel. Pour essayer de comprendre ce désir naturel. Et il faut sortir de la ville. Se marcher sur du macadam. Marcher sur du macadam, vous ne touchez pas la terre. Vous touchez un produit. Vous avez vu comment on faisait une route. Tandis que si vous sortez, ah, c'est autre chose. Et vous passez dans un champ qui a été cultivé artificiellement. Puis petit à petit, vous arrivez à un endroit qui n'a pas été cultivé, où la nature a repris ses droits. Indomptée. La forêt vierge de l'équateur. C'est impressionnant. Dans des pays civilisés, vous avez beaucoup de peine de trouver une vraie forêt. C'est trop bien planté. Descartes est passé par là. Planté. Puis elle a été coupée. Vous ne voyez plus le mouvement naturel. Alors vous aimez le désert. Dans un désert, vous trouvez encore. Et même, quand c'est trop habité, il n'y a plus de désert. Alors vous n'avez même plus la joie de découvrir le désert. Vous devez monter très haut pour dire là, il n'y a plus que des chamois. Ces braves bêtes, elles vivent là. Trace humaine. Et c'est vous qui faites la trace humaine. Et vous avez cette impression, surtout quand il y a eu la neige. Une neige fraîche. Personne n'est passé. Et rien n'est passé. Vous avez quelque chose de naturel. Et vous cherchez le naturel. Un pays qui n'a pas encore été abîmé par l'homme. Qui n'a pas été cultivé. Cultiver, c'est justement la nature et l'homme. Et qui fait qu'on n'a plus le devenir naturel. Et on a ce désir de trouver un désir naturel. Et puis vous posez la question, mais qu'est-ce que c'est que ce désir? Qu'est-ce que c'est que ce devenir naturel? Pas d'où vient-il, mais qu'est-ce qu'il est? C'est un mouvement naturel qui fait que tout change. Ça change au bout d'un certain temps. Mais qu'est-ce qu'il est? Je me dis, ce désir naturel, ce changement naturel, ce devenir naturel, c'est le mouvement naturel, à l'état pur. C'est pas canalisé, c'est pas travaillé par l'homme. Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qui me frappe le plus en ce mouvement? C'est qu'il change tout le temps. Il n'a aucun repos. Aucun repos. Le repos apparaît avec la vie. Toujours changeant. Qu'est-ce qu'il est? Il est naturel, je dis. C'est-à-dire que sa détermination ne vient pas de l'homme, n'est pas artificielle. Et cette détermination, elle s'inscrit dans une potentialité, la terre. Une potentialité victorieuse de la potentialité, de la détermination. C'est ça qui est de si choquant. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, l'artisan a l'expérience de la matière, de la cause matérielle, qui est victorieuse de sa détermination. La matière, c'est la nature. Il a bien une détermination, cette nature. Mais cette détermination est très vite changée par une autre détermination. Et c'est pour ça que je dis, tout coule, tout change. J'ai pas besoin d'y mettre ma main, tout change. Le changement, il vient d'où ? Ah, il vient de la nature matérielle. Il y a un primat de la matière dans tout mouvement naturel. Il y a un primat de l'indétermination de la matière. La matière est victorieuse sur la forme, sur la détermination. Pas dans l'œuvre d'art. Dans l'œuvre d'art, c'est le propre de l'œuvre d'art. C'est d'être victorieuse au point de vue de la détermination sur la matière. Une victoire momentanée. Une victoire momentanée. Quand je regarde aujourd'hui le Parthénon, je vois que la matière est victorieuse sur sa détermination. Ça commence à changer. Alors tous les efforts de l'homme pour mettre à l'abri, on met à l'abri, pour que la matière soit domptée. C'est très curieux de voir ça. Et on voit ça aujourd'hui d'une façon très forte, dans des lieux sacrés. On voit ça à Nazareth, la grotte de Nazareth, qu'on pensait être vraiment la grotte où Marie avait reçu l'Annonciation. Ça, c'est historique, autant que ça peut l'être. Elle commence à s'effriter, à s'abîmer. Il a fallu du temps, 2000 ans. Parce que l'atmosphère aujourd'hui est nocive. Notre atmosphère est polluée. Alors, la pollution de l'atmosphère n'est pas naturelle. Bientôt, vous voyez, il n'y aura plus d'air naturel, comme il n'y a plus de source naturelle, il n'y a plus d'eau naturelle. Quand on vous met des bouteilles d'eau d'évian, eau pure, naturelle. Et on met en Suisse fédéralement pure. J'ai retenu la formule, parce qu'elle est merveilleuse pour voir justement comme la nature, c'est difficile, hein, fédéralement pure. Et là, on met les bouteilles, on met la nature en bouteille. On met l'atmosphère en bouteille. C'est extraordinaire, cette vie. Il n'y a plus de mouvement naturel. Quand on allait de Fribourg à Genève, traversant le début du Valais, il y avait des chutes d'eau merveilleuses. C'est canalisé maintenant. On a peur de la chute d'eau, mais on la canalise. On ne voit plus rien. Oui, on voit le robinet, au terme. Mais le mouvement naturel disparaît. La chute d'eau, c'est un mouvement naturel. Il faut aller aux chutes du Niagara pour trouver encore des chutes d'eau. Et même là, on les transforme en des couleurs multiples et diverses, parce qu'on ne veut plus avoir la nature toute pure. C'est curieux. L'homme a peur de la nature toute pure. L'homme a peur du silence de la nature. Parce que ça parle de Dieu. Quand on est mal avec Dieu, on n'aime pas ça. Quand on est bien avec Dieu, on aime ça. C'est curieux. Vous voyez, on est un monde où la nature disparaît. L'atmosphère, l'eau, la terre, ça disparaît. C'est abîmé. C'est trop civilisé. On cherche un coin de nature pure. Oh, surtout, n'y touchez pas, laissez ça à l'état intact. Si, c'est vraiment ce qu'on fait quand on met l'eau en bouteille. On veut que l'eau soit intacte et soit d'eau pure. Qu'elle soit de l'eau véritable, sans venin. Vous voyez, on a beaucoup de peine à découvrir ce que c'est qu'un mouvement naturel aujourd'hui. Alors que c'est cela que je touche, le mouvement naturel. C'est la nature que je cherche. Mais c'est plus la nature. Cette nature est transformée par l'art. Alors c'est plus ça. On a de la peine énorme à découvrir ce que c'est que le mouvement naturel. L'homme a peur de la nature. De la nature pure. A peur du silence de la nature pure. A peur du bruit de la nature. Le bruit du vent. De l'ouragan. Et je me pose la question, qu'est-ce que c'est que le mouvement naturel? Eh bien, le mouvement naturel, c'est la cause matérielle victorieuse de la forme. Rarement domptée par la forme. C'est ça la différence avec le mouvement artistique, où la forme apparaît triomphalement. Dominant. Dans le mouvement naturel, ça change tout le temps. Pas d'arrêt. Tout change, tout coule. Parce que justement, c'est la victoire de la nature, c'est la victoire de la matière. La victoire de la matière fait que tout change tout le temps. On a beaucoup de peine à découvrir le pas d'arrêt. Dans le fleuve, c'est encore là où c'est le plus victorieux, c'est curieux. L'eau a plus de victoire que la terre. Ah, le feu a une victoire plus grande. Et dans l'air, les mouvements de l'air, c'est extraordinaire. Et on a l'impression que dans l'air, il y a une victoire plus grande encore que sur la terre. C'est la terre qui est le plus contaminée. Il n'y a plus de terre, un mouvement tout à fait pur. Il faut aller dans la lune. Ah, dans la lune, on trouve la matière à l'état pur. On ne trouve pas une matière abîmée par la domination de la forme. On trouve une matière à l'état pur, autant que je puis le savoir, hein, grâce à nos cosmonautes. Ils ont été visiter ça. Et bien, vous voyez, ils ont pris des gants pour visiter la Lune. Ils ont pris des gants. C'était très solennel. C'est vrai. C'est un salon extraordinaire, hein, qui change tout le temps. Mais, tout le temps. Qui peut être glacial, qui peut être chaud. Extraordinaire. Il n'y a pas de chauffage électrique. Non. Un chauffage naturel. Et la nature à l'état naturel, on en a peur. Parce que la matière est victorieuse. Et la matière se venge contre la forme. Parce que la forme artistique muselle la nature. Oh, on n'a jamais pensé à ça. Elle muselle la nature. Comme un chien muselé. Un chien muselé devient méchant. Alors que naturellement, il était bon. Il n'en avait pas assez de force pour le dompter. Alors on l'a muselé. Et notre nature est muselée aujourd'hui. Alors elle a des vengeances terribles. Des tremblements de terre. C'est des vengeances de la matière, ça. Là, vous découvrez le primat de la matière dans les tremblements de terre. Et c'est naturel, c'est pas dompté. Mais la nature a été domptée pendant un certain temps. Alors il y a des vengeances. Mais c'est beau de découvrir la matière, la causalité matérielle qui triomphe de toutes les déterminations, qui arrive à dominer, à se venger. en mouvement naturel, en lutte naturelle. Il se venge. Quand vous entendez dans un roulement de tonnerre, le bruit du tonnerre, vous vous dites, c'est la matière qui se venge. Et c'est vrai, c'est la matière qui se venge. On voit que dans les mouvements d'éclair, il y a une force étonnante là-dedans, qui fait que toutes nos forces artificielles sont peu de choses à côté de ça. Tellement la nature, c'est puissant. Ça, c'est la matière. La cause matérielle, quand elle se venge, est brutale. Elle se venge bien. La nature, quand on ne la muselle pas, elle est bonne. Elle est douce. Mais quand on l'a musée pendant longtemps, pendant des siècles et des siècles, elle se venge. C'est curieux, ça. L'homme de la nature, c'est un homme qui découvre, comme dit Merleau-Ponty, l'être sauvage, le devenir sauvage. Il fait peur. C'est la cause matérielle. Dans le devenir naturel, la cause matérielle est toujours victorieuse. Mais elle est souvent dominée par une forme artificielle. Parce que l'homme se trouve plus chez lui dans les formes artificielles que dans la matière-forme. La matière-forme, elle est toujours domptée par la matière matérielle, par la matière. Je découvre tout de suite, dans le devenir physique, la matière et la forme. Dans la même induction, je découvre la matière et la forme. Il n'y a qu'une seule induction, la matière et la forme. Je ne peux pas séparer la matière de la forme. Ils sont toujours là, ensemble.